les sept versions du Coran. Il est rapporté que le prophète, paix et salut d'Allah, a dit dans le sens. Ce Coran a été révélé sous cette version. Récité d'une manière qui est facile pour vous. Qu'entendons-nous par cette version dans cette parole du prophète? Il existe plusieurs positions savantes à cet égard, mais selon les savants qui ont mené des recherches minutieuses et exhaustives sur le sujet, la signification la plus vraisemblable de cette parole est que les variations trouvées dans les différentes lectures du Saint-Coran sont de sept types. Ce sont les suivantes. 1. La différence entre les noms. Cela inclut la différence concernant le singulier, le duel, le pluriel, le masculin et le féminin. 2. La différence des verbes. C'est lorsqu'il y a l'accompli dans une lecture, l'inaccompli dans une autre et l'impératif dans une autre encore. 3. La différence dans le placement des signes diacritiques. Ce qui montre la variance dans la syntaxe, qui reflète la variance dans le mode grammatical d'un mot et se manifeste par des inflexions désinentielles. 4. La différence causée par l'ajout et la suppression de mots. C'est lorsqu'il manque un mot dans une lecture alors qu'il a été ajouté dans une autre. 5. La différence d'ordre positionnel des mots. C'est lorsqu'il y a un mot qui précède dans une lecture, alors qu'il succède dans l'autre. 6. La différence causée par la transposition. Cela se produit lorsque le mot trouvé dans une lecture est remplacé par un autre mot dans une autre lecture. 7. La différence causée par les styles de lecture. Cela comprend des variations dans les différentes règles de tajwid. Cela signifie qu'en faisant cela, le mot ne change pas mais le mode de sa prononciation change. Quoi qu'il en soit, de nombreuses lectures ont été révélées intégrant ces sept types de rendus différents. Ces différences de typologie n'aboutissent à aucune différence dans leur sens. La latitude donnée visait à faciliter la récitation. Au début, les gens n'étaient pas totalement habitués au style du Coran, par conséquent, de nombreuses lectures étaient autorisées dans le rayon de ces sept types. La pratique bénie du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, faisait qu'il récitait le Coran en entier avec l'ange Gabriel pendant le mois de Ramadan tous les ans. L'année où il allait quitter ce monde mortel, il l'a récité deux fois. Ce fut une relecture minutieuse du Coran. À cette occasion, de nombreuses lectures ont été abrogées. Seules les lectures retenues sont celles qui continuent de rester préservées à ce jour avec une succession ininterrompue. Ousmane, pendant la période de son califat, a fait en sorte que cet exemplaire du noble Coran soit préparé afin de supprimer les doutes concernant la récitation du Coran. Il a incorporé toutes les lectures dans ces sept exemplaires en laissant les versets calligraphiés du noble Coran sans point ni désinence afin que le texte puisse être lu conformément à la lecture que l'on souhaitait suivre parmi les mêmes lectures citées. Ainsi, la plupart des lectures ont convergé vers cette écriture. La communauté a fait preuve de tant de soins et de diligence en rassemblant les lectures dont on se souvenait à travers ces copies que la lecture du Coran est devenue une branche de la connaissance à part entière, et ainsi des centaines d'érudits, de récitateurs et de mémorisateurs du Saint-Coran ont passé toute leur vie à le préserver et à le protéger. Ce qui s'est réellement passé, c'est que lorsqu'Ousmane a envoyé les sept exemplaires du noble Coran dans diverses régions, il avait également envoyé des récitateurs particuliers qui pouvaient apprendre à les réciter. Ainsi, lorsque ces récitateurs ont atteint leur zone désignée, ils ont appris aux gens à lire le Coran conformément à leurs lectures respectives. Ces différentes lectures se répartissent entre les gens. À cela, certaines personnes ont légué leur vie à mémoriser différentes lectures, et à former les autres à continuer la discipline. C'est ainsi qu'a été fondée la science de la lecture et les gens originaires des différentes régions du monde islamique ont commencé à se tourner vers les maîtres de la discipline pour atteindre le plus haut niveau, certains mémorisaient seulement une lecture, d'autres deux ou trois ou sept ou encore plus que cela. Ainsi une règle standardisée fut acceptée comme une norme à travers la communauté musulmane et elle fut suivie partout invariablement. Elle stipulait que seule une lecture qui remplit trois conditions serait acceptée comme faisant partie du Coran. 1. Il faut que la lecture soit conforme à l'écriture des copies ousmanies du Coran. 2. La lecture doit être conforme à la grammaire de la langue arabe. 3. La lecture doit être phoniquement originaire du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et bien connue parmi les maîtres de la récitation. Toute lecture qui ne respecterait pas ne serait-ce qu'une condition ne pourrait être considérée comme faisant partie du Coran, donc un grand nombre de lectures continuèrent d'être rapportées de façon ininterrompue, alors par souci de commodité, il arrivait qu'un imam donnait des instructions dans une ou plusieurs lectures et que cette lecture particulière était alors identifiée par son nom. Par la suite, des savants ont commencé à écrire des livres pour recueillir ces lectures. Ainsi, l'imam Oubed Qasim ibn Salam, l'imam Abu Hatim Sijistani, Qadi Ismail et l'imam Abu Jafar At-Tabari ont été les précurseurs parmi ceux qui ont compilé des livres dans ce domaine, domaine qui comprenait plus de 20 lectures. Puis vint le grand érudit, Abu Bakr ibn Mujahid, mort en 324 de l'Hégire, qui a écrit un livre dans lequel il avait inclus des lectures de sept récitateurs seulement. Son livre est devenu si populaire que ses lectures des sept récitateurs sont devenues beaucoup plus célèbres que celles des autres. En fait, certaines personnes se sont habituées à penser que ce sont les seules lectures sonores du Coran. Cependant, la vérité est que le grand savant Ibn Mujahid a rassemblé ces sept lectures au même endroit par coïncidence. Il n'a jamais voulu dire que des lectures autres que celles-ci étaient fausses ou inacceptables. Cet acte du savant Ibn Mujahid a créé un autre malentendu quand certaines personnes peuvent penser que initialement les sept versions mentionnées dans le propos prophétique signifient juste ces sept lectures qui ont été collectées par Ibn Mujahid. Bien qu'il ait été expliqué plus tôt que ces sept lectures ne sont qu'une partie des lectures sonores, sinon chaque lecture qui remplit parfaitement les trois conditions susmentionnées est saine, acceptable et incluse dans les sept versions dans lesquelles le noble Coran a été révélé.